D'ordinaire, la Fédération internationale automobile n'aime pas les entorses au protocole. Pourtant, le 20 avril 2003, l'organisme accepte que Michael Schumacher, vainqueur du Grand Prix de Saint-Marin, quitte immédiatement le circuit d'Imola pour veiller sa mère, Elisabeth, décédée la nuit précédente. Cette épreuve nous invite à nous interroger sur l'homme. Qui est vraiment Michael Schumacher ?
Die letzte Hoffnung des Michael Schumacher sein.
Oh, look at Michael Schumacher, he's blocked his brakes. Michael Schumacher is coming through to take his first win of the 2003 Formula One season.
3 minuti e 3 secondi, Schumacher e la Ferrari sono campioni del mondo.
Michael Schumacher absolutely flying.
Épisode 9, victoire et douleur.
Alors, on a toujours l'impression qu'il y a deux Michael Schumacher. D'un côté, le pilote déterminé, de l'autre, l'homme privé, simple et chaleureux. Pierre Van Vliet, en tant que journaliste, vous avez plutôt vu lequel ?
Alors, en tant que journaliste, c'est effectivement plutôt vu le pilote, le professionnel, le grand champion. Mais j'ai eu la chance aussi d'approcher l'homme. Alors, je ne prétends pas du tout avoir été ami ou avoir été proche de Michael Schumacher, loin de moi cette idée. Mais j'ai vu l'homme sous certaines facettes. Par exemple, à Spa, son premier Grand Prix, j'étais avec des potes, on distribuait des t-shirts sauvés, gâchots, etc. On a fait une manif, bon. Et à la sortie du briefing des pilotes, la plupart des pilotes ont mis le t-shirt. Certains l'ont fait avec une petite réticence. Mais Michael, tout de suite, il m'a dit « Oui, ça je mets. Voilà. » Dis à Bertrand qu'on pense à lui, que c'est injuste ce qui lui arrive, que c'est scandaleux, etc. etc. » Ce que j'ai transmis à Bertrand à l'époque, et quand Gâchot a été libéré et qu'il s'est présenté sur le Grand Prix suivant, c'était à Suzuka. Alors évidemment, il n'a pas récupéré son volant. De toute façon, Schumacher était chez Benetton, c'était déjà le chapitre suivant. Mais Michael est venu lui parler et Bertrand, Gâchot et Michael Schumacher sont restés proches et assez bons amis. Il faut savoir que Bertrand parle allemand couramment, sa mère était allemande. Toute sa carrière, Bertrand, je me souviens, chaque fois qu'il venait encore récemment sur les Grands Prix, parce qu'il était sponsor, il était devenu sponsor, il voyait Michael, on s'isolait dans le motorhome Ferrari ou chez Mercedes, manger un plat de pâtes avec Michael et ça parlait allemand autour du bout de gras. Donc il y a ce bonhomme-là, assez loyal comme ça, ou en tout cas respectueux. Moi, je l'ai vu aussi par hasard, parfois. Je me souviens un jour à New York, ça devait être en 95, quelque chose comme ça, avant le Grand Prix du Canada à Montréal. Je suis là avec ma femme et des amis, on va à Broadway voir une comédie musicale. Et puis dans la salle, à un moment, tiens, je vois trois rangs devant nous, Michael et Corinna. Alors bon, à l'entracte, je descends, je dis, tiens, qu'est-ce que vous faites là ? Et il me dit, mais toi, qu'est-ce que tu fais là ? Bon, décalage horaire, on vient quelques jours plus tôt pour le Canada, et by the way, on passe à New York, on ne connaissait pas New York, et puis voilà, le concierge de l'hôtel nous a conseillé tel spectacle, et on est là et tout. Bon, sympa. Il était heureux de l'incognito, parce qu'on est aux États-Unis, personne ne savait qui c'était. On est allé boire un coup après, et il était quelqu'un beaucoup plus ouvert que l'homme que j'avais déjà côtoyé professionnellement sur les circuits. Je me souviens que quand il était Benetton-Renault, donc à peu près à cette époque-là, il devait faire des interviews, Renault et Elf avaient un peu des passe-droits chez Benetton pour avoir des interviews en primeur, etc. Et une fois, je suis arrivé un peu dans le garage, une heure avant le départ, mais il se préparait, il était un peu dans sa phase de concentration, et moi j'étais en direct, donc j'arrive, et voilà, je tends le micro, je lui pose une question, et il n'a pas le choix, il répond, etc. Il est venu me voir après en me disant « ne me fais plus jamais ce coup-là ». Parce que d'abord, on demande. Et alors, moi, j'ai essayé de lui faire comprendre que, voilà, le direct en télé, on improvise parfois. Et voilà. Donc, j'avais déjà eu affaire aux deux versants du bonhomme. Dernière anecdote, pour rester aux États-Unis avec cette histoire de Broadway, il adorait les États-Unis. Il y allait très souvent. Il a fini par acheter un ranch dans le Texas, le Wyoming. Et un jour, c'est pas moi qui y étais, mais j'ai des amis qui ont assisté à la scène, à Charlotte, Caroline du Nord, sur l'anneau de NASCAR. Un mercredi en semaine, il y a la queue des badauds, les mecs qui montent dans les autos à 50$ pour faire deux tours, pour avoir la sensation, l'adrénaline de l'ovale avec une NASCAR. Et Schumacher est dans la queue. Et il paye 50$ comme tout le monde et il va faire son tour en NASCAR. Personne ne reconnaît, personne ne sait qui c'est. Mais il avait cette curiosité et ce plaisir de l'anonymat outre-Atlantique. Et toute dernière anecdote pour... la dimension un peu plus privée, un peu plus chaleureuse du bonhomme, c'est vraiment en fin de carrière, voire même après sa carrière en F1 et son comeback avec Mercedes. Je crois que c'est à Düsseldorf où il y avait la course des champions, la Race of Champions. Et j'y vais parce que c'était pas loin, j'étais invité, peu importe. Et on se retrouve à un dîner finalement en très petit comité, parce que c'était un horloger qui était le sponsor de Michael à l'époque. Et on se retrouve, on a dîné à quatre, Michael, Sabine Kem, moi et Jacques Deschenaux de la télévision suisse romande, un vieux dinosaure du paddock aussi. Et on a passé une soirée formidable, et où Michael était relax, parce que voilà, sa carrière en F1 était derrière lui. Il était là pour s'amuser, hein, à la course des champions, etc. Et on a reparlé, y compris de l'épisode de l'Autriche 2002, y compris des tensions avec Ferrari, avec Jean, etc. Et il était très nuancé et très amical avec moi. Et tout le monde imagine, hein, que forcément c'était la guerre et que c'était pas possible. Et ce jour-là, j'ai encore vu Michael sous un angle qu'on connaît très peu et qu'on a très rarement découvert.
Le pilote a sa spécificité. C'est quoi sa méthodologie de travail par rapport à d'autres pilotes d'avant-garde ?
Alors, il a mis la barre encore plus haut, sans doute, que Senna avant lui ou Lauda et Prost auparavant. Dans le sens où il a toujours bossé pour réussir et il a toujours réalisé que c'est son travail qui lui permettait de repousser les limites et d'atteindre des performances exceptionnelles, notamment chez Mercedes en endurance, où ça a été vraiment son école de la course, quoi, son école de vie. Et chez Ferrari, enfin chez Benetton, et puis chez Ferrari, voilà, il faisait des ponts, il s'est vraiment... Parce que chez Benetton, c'était la course à l'anglo-saxonne, avec Walkinshaw, Rosbrough et compagnie. Chez Ferrari, c'était d'autres ressources, un peu infinies, mais il fallait aussi les exploiter à bon escient. Et puis, personnellement, physiquement, c'est devenu un athlète hors norme. Alors, ça avait déjà été le cas de Senna, mais il a vraiment mis la barre encore plus haut. Et puis, staccanoviste du boulot, quoi. C'est effectivement... les dizaines de milliers de kilomètres à Fiorano, jour et nuit, enfin, surtout le jour, forcément, mais sans compter, quoi. Et en faisant... Tout le reste passait au second plan, y compris sa vie de famille ou sa vie privée. Au contraire de Senna, qui, lui, voilà, avait le saudade du Brésil, hein, la nostalgie de son pays, le mal du pays, et Ayrton rentrait au pays. Et deux ou trois mois par an, Ayrton, on ne pouvait pas compter sur lui. Le team devait se débrouiller sans lui. Jamais avec Schumacher, qui était là, 365 jours par an, 24 heures sur 24.
Il y a un personnage dont nous n'avons pas encore parlé, c'est Ralf Schumacher, le petit frère de Michael. Ralf est né en 1975, et comme son frère, il court en F1 à partir de 1997. On le voit d'abord chez Jordan, puis chez Williams. À cette époque, c'est même un candidat crédible pour devenir champion du monde.
Oui, c'est assez exceptionnel d'avoir deux frères à ce niveau-là. Et puis le petit frère qui suit les traces quand même d'un immense champion, parce que Michael est déjà la référence absolue à l'époque. Alors évidemment, il est de 6 ans son cadet, donc lui, à Kerpen, il est né dans le karting, Ralf. Il a eu moins de difficultés que Michael, évidemment, pour rouler en karting et puis pour faire de la compétition. Willy Weber a tout de suite senti... D'abord que Ralf était doué et que l'histoire des deux frères, c'était une bonne pioche. Donc Weber a fait rouler Ralf en Formule 3 dans son écurie WTS qu'il avait toujours. Ralf a bien marché, etc. Et puis, ils ont décidé de l'envoyer plutôt que Formule 3000, où de toute façon, Weber ne s'était jamais senti à l'aise, au Japon, en Formule Nippon, qui est l'équivalent de la... ce qu'on appelle la Super Formula aujourd'hui, le championnat de monoplace de référence au Japon. Et donc, Ralf a fait une saison de formation là-bas, je crois que c'est en 96. Assez marrant, d'ailleurs, sous la houlette de Franz Tost, qui est le team principal de Scuderia Toro Rosso aujourd'hui, et qui était à l'époque le porte-flingue de Willy Weber. Et Franz Tost a passé un an au Japon avec Ralf en Formule Nippon. Et puis, quand il est revenu, ben voilà, il avait coupé le cordon, il avait pris de l'autonomie, il s'était émancipé de Michael, mais aussi de la famille et tout le reste, et il était mûr pour la F1, et Weber, forcément, avec son carnet d'adresse, a placé assez facilement Ralf chez Jordan, alors que ça s'était quand même mal fini entre Eddie Jordan et Michael Schumacher. Et Eddie a essayé de tourner ça à son avantage, mais Michael ne s'est jamais trop préoccupé de la carrière de son frère ou ne s'est jamais, je crois, mouillé pour la carrière de son frère. Willy Weber, bien sûr, pour d'autres raisons, mais pas Michael. Et entre les frères, d'ailleurs, on ne sait jamais s'il y a eu une forme de... Sinon de rivalité, du moins, il n'y avait pas une complicité. On ne sentait pas la fratrie. Le seul moment où on s'en est rendu compte, c'est le jour de la mort de la mère de leur maman, Elisabeth Schumacher, où là, tous les deux étaient évidemment bouleversés. Et ils ont quitté Imola le samedi pour aller au chevet de leur mère, ou en tout cas faire les adieux à leur mère et revenir le lendemain matin avec le même avion privé. Mais encore aujourd'hui, mais bon... Les circonstances ont changé. Mais même quand Michael est revenu et tout, entre Ralf et Michael, on a quand même souvent senti une certaine distance.
Quelle est l'image de Michael Schumacher en Allemagne ?
En Allemagne, c'est un dieu vivant. C'est, il est énorme. parce que c'est lui qui a remis l'Allemagne sur la carte de la planète Formule 1 ou automobile au sens large. Ils n'avaient jamais eu un champion, hein. On a parlé de Von Trips, les pilotes allemands des années 70-80, bon, c'était des bons petits soldats, mais pas de la graine de champion. Jochen Mass, Hans Stuck, des mecs formidables par ailleurs, hein, mais pas des champions du monde en puissance. Le seul, c'est Stefan Beloff qui avait certainement ce potentiel, qui aurait pu l'être malheureusement, qui est décédé dans un accident en endurance. Et donc, voilà, il y avait aussi en Allemagne un manque, une absence. Et Michael est arrivé à point nommé. Et puis, il y a eu le phénomène RTL, l'intérêt de l'Allemagne avec Mercedes et avec d'autres qui a suivi. Et la manière dont il gagnait, le panache dont il faisait preuve, les foules que ça mobilisait, la fameuse Schumi-mania, les campings dans tous les coins, etc. La bière coulait à flot, certes, mais il y avait cette adhésion populaire.
Michael Schumacher, La Saga, un podcast de Pierre Van Vliet et Andy David, prise de son et montage Clément Rutter, voix off Marie Lisac.